étude que je vous propose de vous présenter porte sur les notions de jeu, les notions de sport, les notions de violence dans une situation particulière qui est donc la notion de captivité de guerre. Par rapport à cette situation tout à fait particulière, bien évidemment, les travaux notamment de Fabien Théophilakis ont montré toute la richesse qu'il y avait à analyser ce registre de situation, étant donné qu'on allait pouvoir travailler sur les transferts culturels, qu'on pouvait travailler sur les notions d'acculturation, qu'on allait aussi pouvoir travailler, entre autres, sur les procédures mises en place par les puissances détentrices en termes d'encadrement, en termes de contrôle, entre autres par les jeux, mais par les jeux aussi, ou aussi regarder et travailler sur la façon dont les prisonniers de guerre avaient vécu cette situation tout à fait particulière et regarder si les jeux étaient intégrés dans leur pratique quotidienne pour essayer de savoir comment ces derniers étaient inclus, peut-être dans une manière de lutter contre la vulnérabilité qu'ils subissaient. Dans ce cadre, il me semble très intéressant d'aller regarder plus spécifiquement la notion de sport, parce que le sport, à la fin de l'entre-deux-guerres, c'est une pratique culturelle qui s'est largement développée, parce que c'est un vecteur d'idéologie au pluriel, hétéroclite au pluriel aussi, parce que c'est encore, à cette époque-là encore, un support d'identité nationale et un support d'identité locale. Par rapport à ce travail, donc je vais m'arrêter sur la captivité de guerre, sachant donc très rapidement que la captivité de guerre pour les Français en 1940, c'est 2 millions de personnes qui sont concernées, parmi eux une très grande majorité d'hommes de troupes, une petite minorité d'officiers, mais moi je vais plutôt m'atteler à regarder le statut intermédiaire qui est celui des sous-officiers prisonniers de guerre. Donc ils sont, comme vous le voyez sur la diapo, 130 000 en 1940 à être sous-officiers prisonniers de guerre. Plus particulièrement, ces derniers sont protégés par une convention qui est la Convention de Genève de 1929, que Français et Allemands ont signée. Les Russes ne l'ont pas signée. Ce sera très compliqué pour eux une fois arrivés en situation de captivité. Mais là, les Français et les Allemands l'ont entre autres signée. Dans cette convention, entre autres, il est stipulé que ni les officiers ni les sous-officiers ne seront tenus de travailler pour la puissance détentrice. Ce qui signifie que pendant 4 ou 5 ans, ces derniers n'ont pas à travailler pour les Allemands. Or, le problème va se poser, si vous le voyez tout de suite, c'est que si tant est que les officiers sont très peu nombreux, les sous-officiers sont, eux, en nombre bien plus important, ils sont 130 000. Et pour les Allemands, cela constitue une masse d'individus sur le plan des enjeux économiques qui est trop importante pour les laisser ne pas travailler. Donc les Allemands vont tenter de forcer les sous-officiers à travailler, et les sous-officiers, certains d'entre eux en tout cas, vont refuser parce qu'ils vont s'appuyer sur cette convention de Genève de 1929. Donc ce que je vais regarder moi aujourd'hui, ce sont ces sous-officiers, prisonniers de guerre, réfractaires au travail, c'est-à-dire qui refusent vis-à-vis des injonctions allemandes de travailler pour la puissance détentrice en tant que telle. Cette communication, donc, je la fais au regard d'un prisme tout à fait singulier, tout à fait particulier. J'aurais pu prendre aussi le théâtre, prendre d'autres registres de distraction, mais je me suis intéressée à la façon dont ces sous-officiers réfractaires au travail avaient vécu ce que j'ai appelé dans mes travaux de thèse des pratiques corporelles. Ces pratiques corporelles, je vais vite, sinon les 20 minutes vont être compliquées à gérer. Pour moi, en fait, ce sont tout un ensemble de pratiques qui ont comme point de, on va dire, d'achoppement, le fait de mettre le corps en situation, on va dire, de travail. Donc c'est la mise en jeu prioritaire du corps qui me fait classer ou non l'activité comme étant des pratiques en tant que telles corporelles. Je vous ai remis la définition que Thierry Terret avait donnée du sport. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail vu que j'étais absente et j'ai pas bien signé la feuille de hier matin, donc j'ai pas entendu les débats sur qu'est-ce qu'un sport, qu'est-ce qu'un jeu. Donc je vais j'ai mis la définition de Thierry Terret là-dessus. Mais toujours est-il que pour moi, pour vous dire que ma thèse ne porte pas sur le sport en situation de captivité, mais sur les pratiques corporelles en situation de captivité, le sport en faisant partie, mais pas que, et pas uniquement dans son sens restreint de pratiques institutionnalisées comme Parlebas l'avait mis en exergue en 1981. Donc sur ce graphique, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'ayant travaillé aussi sur les déportés, ayant travaillé aussi sur les requis pour le travail obligatoire et sur les prisonniers de guerre, en fait j'avais affaire à plusieurs registres de formes de pratiques corporelles qui vont dans un continuum entre les pratiques totalement contraintes d'un côté et les pratiques libres de l'autre, c'est-à-dire que là, l'homme captif en fait est libre de mettre en place dans un espace qu'on lui a accordé certaines formes d'activité. Pour ce qui concerne donc nos sous-officiers prisonniers de guerre, eh bien je vais constater auprès d'eux plutôt du Strafstehen et du Sportmarine. Donc là, ce sont des activités que les Allemands vont leur imposer, et des sports de compétition et des pratiques de loisirs. De l'autre côté, là, on sera sur des activités que les captifs vont mettre en place eux-mêmes de leur propre chef. Juste très vite, les pratiques de sélection, les pratiques d'exhibition sont des pratiques qu'on retrouve uniquement dans les camps de concentration et d'extermination. Pratiques de sélection étant des jeux pour envoyer à la chambre à gaz de façon un petit peu plus ludique, évidemment, pour les nazis. Et les pratiques d'exhibition, c'est, alors avant je les avais appelées les pratiques de gladiateurs, j'ai pas mis le terme, je sais pas si le collègue est là, sont des pratiques en fait où on met en jeu et en scène en fait des déportés dans le cadre de combats qui sont là pour évidemment divertir les Allemands, certainement pas les déportés, comme vous l'aurez compris. Mais ça, on le voit pas dans les camps de prisonniers de guerre en tant que tels. Donc là, je vais m'atteler à regarder donc Schraftern, Sportmarine, les pratiques qu'on leur impose, et sport de compétition et loisirs sportifs d'un autre côté. Au regard de ce que j'ai entendu dans les différentes communications, donc évidemment, je m'appuie sur les travaux de Kaiwa pour analyser les pratiques qui vont apparaître, mais cela me semblait, on va dire, incomplet par rapport à l'analyse des sports en tant que tel, et donc j'associe aussi les travaux de Bernard Jeu de 1977, le sport, l'émotion, l'espace, à l'intérieur duquel, en fait, Bernard Jeu stipule qu'il existe trois formes de pratique au regard de ce que vit en fait la personne, le pratiquant dans la pratique. Donc des pratiques qui sont basées sur l'épreuve en tant que telle, où là il s'agit de prendre des risques, de mettre son corps en danger, de réaliser des exploits. Ça, on n'en trouvera pas dans les camps de prisonniers de guerre. Il y a aussi des activités qu'il appelle de performance, où là l'individu cherche à aller le plus loin possible, à reculer ses limites, à faire des records tout simplement dans un espace donné. Et puis il existe enfin des pratiques d'agone, de compétition chez Bernard Jeu, où là il s'agit en fait de vaincre, de gagner, d'avoir une victoire face à une équipe ou face à une personne en tant que telle. Donc ça, c'est le cadre théorique global dans lequel j'ai travaillé pour mes travaux. Donc cette diapo, je vais passer très vite, hein, c'était juste pour vous montrer les sources sur lesquelles j'avais travaillé, donc tant des sources allemandes que des sources françaises, que des sources provenant donc des musées de résistance et de déportation divers et variés. Mais celui pour le cas des sous-officiers, c'était au musée de la résistance et de la déportation de Besançon, que j'ai retrouvé les journaux de camp, qui sont des traces très intéressantes, des sources très intéressantes pour suivre la vie quotidienne des sous-officiers quand on est en train de les analyser, que j'ai complété avec des archives familiales. L'objectif donc pour moi aujourd'hui, ça va consister à vous montrer que le statut accordé aux sous-officiers va se transformer entre 1940 et 1944. En tout cas, les nazis vont transformer la façon dont ils voient les sous-officiers, et que le jeu va rentrer en fait comme outil différencié suivant le statut que les nazis vont leur accorder. Donc le jeu va être un moyen de pression à un moment donné, vous allez le voir, et puis ensuite ça va être un moyen pour les satisfaire d'une certaine façon dans une propagande beaucoup plus subtile, pour les amener petit à petit à accepter les règles du jeu nazi, c'est-à-dire les règles du travail obligatoire qu'ils sont en train d'essayer de leur faire accepter. Donc c'est un petit peu l'objectif que je vais avoir avec vous, comment le jeu sportif rentre dans une stratégie, et puis comment de l'autre côté, les captifs vont s'en servir pour essayer de lutter contre la vulnérabilité qui est la leur. Donc le premier point va porter sur la période 1940-1942, au moment où les sous-officiers sont réfractaires et au moment où ils ne sont pas encore envoyés dans un camp spécifique. Donc ici, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces hommes vont être soumis à des violences protéiformes et que les jeux vont faire partie des violences protéiformes qu'ils vont devoir en tant que tels subir. Donc premier petit point, je le fais vraiment très vite, après on pourra revenir sur ces diapositives bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que au sein de la Convention de Genève, il existe tout un ensemble d'articles, hein, plus de 80 en tant que tel, mais deux sont concentrés en fait sur le fait que les puissances détentrices aient obligation d'apporter aux prisonniers de guerre en situation de captivité pendant la Seconde Guerre mondiale de quoi pouvoir faire des exercices physiques, de quoi pouvoir avoir accès au plein air, de quoi pouvoir avoir des distractions intellectuelles et sportives, le tout pour gérer la psychose des barbelés qui est apparue chez les poilus pendant la Première Guerre mondiale. Donc la Convention de Genève le stipule tout à fait. Le Comité international de la Croix-Rouge, dès 1939, imagine les moyens, imagine l'organisation qu'il va falloir mettre en place pour que, entre autres évidemment, ces éléments-là soient mis en place concrètement. Et elle fait appel, la Croix-Rouge, enfin le Comité international, à l'Alliance universelle des YMCA, hein, c'est pas les chanteurs, hein, c'est l'Alliance universelle qui est située à l'époque à Genève, là, qui va être chargée plus particulièrement d'apporter le matériel sportif et de distraction jusque dans les camps de prisonniers de guerre. Et donc ces mêmes YMCA vont proposer à un moment donné, en 1941, une brochure qui va porter spécifiquement sur les pratiques physiques en situation de captivité. Et là, vous en avez un petit extrait où il est indiqué qu'il faut que les sportifs, que les prisonniers fassent du sport parce que c'est bon pour eux. C'est le milieu de la citation. Enfin, ils doivent faire du sport pour se délasser et se divertir. C'est stipulé en fait dans ce document qui va circuler ensuite dans les camps. Donc je résume très vite. Pour les institutions humanitaires, l'objectif, c'est bien de faire en sorte que les prisonniers jouent pour qu'ils puissent essayer de limiter leur vulnérabilité, pour qu'ils puissent échapper à la psychose des barbus. Donc on est vraiment sur des ambitions qui sont très humanistes, très humanitaires en tant que telles. Comment les Allemands vont-ils maintenant, comment les autorités allemandes vont-ils récupérer cette obligation qui leur est faite dans les camps? Et bien évidemment, les intentions des autorités allemandes dans les différents camps, au flag pour les officiers, stalag pour les hommes de troupes, vont être largement différentes. Ce que vont faire les Allemands, c'est qu'ils vont effectivement donner des espaces de liberté surveillés aux prisonniers de guerre à l'intérieur de leur stalag ou de leur au flag, mais non pas pour leur santé, non pas pour leur bien-être, pour davantage les contrôler, contrôler la masse qu'ils sont, contrôler véritablement leurs actions, contrôler leurs frustrations sans doute aussi, et aussi pour les endoctriner d'une manière ou d'une autre. Donc ils sont sur un double projet, contrôler la captivité et tenter d'endoctriner les personnes qu'ils ont en fait sous la main toute la journée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes instances au plus haut niveau dans l'État allemand qui organisent en fait l'ensemble de ces choses-là. Donc j'en cite trois, la Frontreichskomitee, l'Auswärtigesamt et Dienststelle Ribbentrop, qui sont trois instances interconnectées qui travaillent en fait sur la mise en place de ces processus et de ces intentions. Dans les camps, ce qu'il faut savoir aussi, qu'en flag comme stalag, il y a toujours un Allemand qui s'appelle un Betreuer, qui parle très bien le français et qui est là en contact avec les Français pour essayer de leur suggérer de faire certaines activités et qui va donc leur transmettre tout un ensemble de valeurs, enfin qui va tenter en fait de faire entrer dans leur tête toutes les valeurs que les nazis souhaitent qu'ils acquièrent. Quoi qu'il en soit, dans les camps, les autorités allemandes vont aider activement à la mise en place de pratiques physiques et sportives, si sur le plan purement, on va dire, organisationnel, c'est ce que je voulais indiquer. Qu'en est-il dans les camps, sans regarder encore les sous-officiers prisonniers de guerre? Eh bien, dans les camps, très clairement, on voit apparaître une espèce de, on va dire, d'épidémie d'activité sportive dès lors que cela est possible. Donc là, vous avez l'Auflag 4D, qui est un Auflag, on va dire, d'officiers français qui sont... Enfin, forcément des intellectuels, mais qui sont de niveau social très, très élevé, qui mettent en place, donc là c'est 1941, le plan a été fait en 1941, donc on voit qu'ils ont organisé leurs espaces, et que dans ces espaces, eh bien, ils ont construit une piscine, une salle d'escrime, un terrain de volleyball, etc., etc. Et donc les activités sont des activités qui sont extrêmement répandues à l'Auflag 4D. En 41, vous avez tout un ensemble de compétitions qui sont organisées. Alors dans les stalags, me direz-vous, dans les camps mères des stalags, c'est-à-dire quand on est à l'intérieur du stalag, parce que le stalag est formé de plein de commandos, donc je ne vais pas sur les commandos, mais dans le camp mère des stalags, de la même façon, vous avez avec 6 mois d'écart en général, 6 à 8 mois d'écart, la même disposition qui se fait, avec la même effervescence des pratiques sportives, mais on est plutôt sur une effervescence majeure en 1942, moins en 1941, comme c'est le cas dans les Auflag. Qu'en est-il maintenant, donc, puisque j'étais hors sujet depuis le début, là, qu'en est-il maintenant de mes sous-officiers prisonniers de guerre? Eh bien, eux, ces sous-officiers, sont dans les stalags, dans les camps mères des stalags, mais ils n'ont pas accès aux jeux, ils n'ont pas accès aux distractions. Ils sont isolés dans le camp, dans des baraquements qui leur sont spécifiquement dédiés. Donc ils regardent de loin les autres jouer. Donc ça, c'est une première forme de punition que les autorités allemandes leur imposent. Autre élément, on va par contre, au contraire, eux, les confronter à des activités de type exercice punitif du matin au soir, que ce soit des exercices punitifs de type appel répété, donc Strafstern pour les Allemands, ou que ce soit des exercices de type pelote ou de type Sportmarin, ce sont des exercices de mise en jeu prioritaire véritablement du corps, où les problématiques musculaires sont véritablement importantes. Donc je résume, par rapport à cette période 40-42, ce que l'on voit, c'est que les institutions humanitaires avaient pensé les jeux et les sports comme une lutte contre la vulnérabilité. Les Allemands l'ont pensé davantage comme contrôle et endoctrinement. Sauf pour ceux qui sont jugés comme indésirables, pour lesquels, eh bien, on a une autre forme de traitement qui apparaît, qui est une forme de traitement en termes d'exercice punitif et de punition de pas avoir le droit de faire des jeux comme les autres. Donc là, c'est la situation en 1942 en tant que telle. Sauf que ça ne fonctionne pas, ou mal, et que les réfractaires ne cessent d'augmenter en nombre. Et donc là, les nazis se retrouvent face à un problème de gestion d'une masse d'individus qu'ils n'arrivent pas à véritablement contrôler à une période où cela devient un petit peu compliqué. La deuxième période, donc deuxième partie de ce travail, va aller de 42 à 44. Et là, concrètement, ce que font les nazis avec les sous-officiers réfractaires, comme ils le font avec les évadés récidivistes, c'est qu'ils vont les envoyer dans un camp qui va leur être dédiée, donc à l'opposé quasiment de la France, hein, on est dans le gouvernement général de Pologne, et ils vont les enfermer dans ce camp-là jusqu'à la fin de la guerre. Et ce que l'on va voir qui est très paradoxal, enfin, c'est pas paradoxal, mais qui est très étonnant, c'est qu'à ce moment-là, ils vont leur donner les moyens de jeu, ils vont leur donner les moyens de jouer. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est pour quelles raisons, en fait, il y a cette bascule qui s'opère entre 42 et 44, sachant qu'évidemment, on est en pleine guerre totale et que l'humanisme allemand n'a pas été transcendé en quelques mois. Donc la nouvelle stratégie, elle est corrélée à, on va dire, à un contexte politique qui est très fort. C'est que dans les négociations avec le gouvernement de Vichy, eh bien, les Allemands sont sur une ligne de crête un petit peu ténue, puisqu'il faut absolument qu'ils arrivent à mettre en place le travail obligatoire, le STO. Donc ils ne peuvent pas non plus en fait rentrer en conflit avec le gouvernement de Vichy foncièrement. Dans des accords que j'ai passés dès le départ, on pourra revenir dessus. En tout cas, les négociations sont compliquées avec le gouvernement de Vichy. Donc ils ne peuvent pas réduire à néant ces militaires qui leur font un petit peu front, là. Deuxième élément, il faut aussi qu'ils gèrent le nombre de militaires qui surveillent les camps, les nombres de militaires allemands qui surveillent les camps, parce que ces derniers sont de plus en plus utiles sur les fronts de l'Est, donc il va falloir limiter en fait le nombre de militaires de la Wehrmacht dans les camps pour pouvoir les envoyer sur le front en tant que tel. Donc toutes ces raisons, on va dire, associées, plus le fait que ces militaires sur territoire allemand sont quand même un mauvais exemple, vous voyez, pour la population allemande qui doit travailler à temps plein et à plein régime, et bien pour toutes ces raisons, en fait, ils vont les envoyer à l'opposé. Donc très très loin, là, c'est le petit rond, vous savez, à côté de Cracovie, dans un stalag spécifique, donc qui est celui de Kobersin, le stalag dit 369. Sur place, si ce déplacement n'a pas visé à faire peur, à dissuader les autres qui voulaient peut-être devenir des sous-officiers réfractaires, bien sur place, en fait, les conditions de vie changent. Et tous les témoignages s'accordent pour dire que ça s'améliore par rapport au stalag de 40 à 42. Donc ça s'améliore comment? Eh bien parce que toutes les mesures de discipline cessent. Donc tous les exercices dont je vous parlais tout à l'heure cessent systématiquement à partir de 42. D'autre part, les autorités allemandes vont mettre en place exactement la même stratégie que dans les Auflag, c'est-à-dire qu'ils vont laisser un espace de liberté un petit peu plus important à l'intérieur des barbelés, évidemment ils n'en sortent pas, ils vont laisser la possibilité de construire des installations sportives, ils vont suggérer aux prisonniers de guerre de s'organiser, ils vont leur demander de mettre en place des fureurs des sports qui organisent un petit peu les pratiques sportives à l'intérieur de ces camps. Donc ils construisent un univers que je dirais contrôlé, réglementé, discipliné, culturellement saillant pour les prisonniers de guerre qui sont ici enfermés. Donc ils utilisent à leur endroit un processus que je dirais de disciplinarisation qui est assez subtil et qui a déjà porté ses fruits dans certains Auflag pour certains officiers, évidemment, bien sûr, pas tous. Pour les captifs français qui arrivent dans ce nouveau stalag, une fois terminées les problématiques très importantes de nourriture, parce qu'en juin 1942, les problématiques de nourriture sont très importantes, mais ils cessent vers le mois d'août quand les premiers colis arrivent, eh bien ces derniers vont mettre en place et l'organisation suffisante pour qu'ils puissent organiser leurs activités physiques et sportives, leurs jeux sportifs. Et dans ce cas de figure, ils reprennent les modèles qu'ils ont vu vivre dans les stalags, c'est-à-dire qu'ils vont demander à leur homme de confiance de mettre en place un service des sports, et que dans ce service des sports, il y aura un responsable des sports qui, lui, va désigner des responsables de sections sportives. Tous ensemble vont se mettre au travail pour créer les installations sportives que vous avez vu apparaître pour le flag 4D. On retrouve en fait les mêmes choses dans cet flag 369A. Donc on a en fait, par exemple, au bloc 1, dès l'automne 1942, un terrain de volley, un autre de basket, et à partir du mois d'octobre, une piste d'athlétisme qui a été créée spécifiquement par les captifs qui les ont mises en place. Pour quelles raisons le font-ils? Pourquoi les raisons ont-ils toute cette énergie là, dépensée par rapport à la mise en place de leurs activités? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent en place des habitudes d'avant-guerre, des jeux sportifs d'avant-guerre. Ils remettent en place les mêmes organisations sociales. Ils mettent en place, par exemple, des clubs. Le Stade français est très connu à l'époque. Donc, on retrouve un stade français comme club de ce stade 369. Ils remettent en place, évidemment aussi, les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles des sports qu'on retrouve à l'intérieur des camps. Et on le voit sur la photo ici, vous avez en blanc l'arbitre. L'arbitre, évidemment, qui ensuite a des noms d'oiseaux dans les journaux de camp, puisqu'il aura mal arbitré le match dans les règles que les joueurs auront voulu, eux, voir apparaître. Il y a aussi, on le voit en bas, là, vous voyez bien qu'ils ont mis en place des lignes qui sont en train de faire les dimensions du terrain de basket, comme on retrouve les lignes, évidemment, sur le terrain de basket quand on est en situation d'avant-guerre. Donc, en gros, ce que font les prisonniers, c'est qu'ils remettent en place leur jeu d'avant-guerre à l'intérieur du camp, avec les mêmes règles, les mêmes règlements, les mêmes habitudes, on va dire, corporelles en tant que telles. Ces différentes activités que j'ai pu repérer à travers les journaux de camp, je vous ai les listées ici. Donc, ce sont des activités de performance, principalement de l'athlétisme, le cross. Ce sont des activités, comme on voit la liste, hein, de compétition, avec principalement le foot et le rugby. Je ne les ai pas classés par ordre de nombre d'adhérents. Puis d'autres activités de patinage et de danse folklorique qu'on voit apparaître dans les témoignages. Pour quelles raisons ont-ils mis en place ces activités? Pour quelles raisons les captifs ont-ils tant dépensé d'énergie pour les mettre en place entre 42 et 44? C'est la dernière question à laquelle je vais tenter de répondre, sachant que ce qui guette le captif, c'est ce qu'on appelle la psychose des barbelés, c'est-à-dire ce temps qui n'a plus de sens, qui n'a plus de signification, qui n'a plus de fonction, et qu'on voit se déliter de semaine en semaine et de mois en mois. Eh bien, dans les témoignages et dans les journaux de camp, ce que l'on voit apparaître, c'est que les activités physiques et sportives, les jeux sportifs, permettent aux captifs de se réapproprier le temps. Se réapproprier le temps immédiatement, puisque vous allez jouer dans un temps qui est celui du jeu, mais se réapproprier le temps aussi de manière différée. Parce que le jeu sportif est un jeu avec calendrier, je crois que quelqu'un l'a dit ce matin. Donc on attend le grand événement. Et ces grands événements sont toujours corrélés à des journées qui ont un sens pour les prisonniers. Par exemple Pâques, par exemple le 15 août. Alors ils n'ont pas le droit au 14 juillet, évidemment. Mais ils utilisent comme ça des dates clés, phares, pour organiser leur grand cross ou organiser leur grande compétition de football. Ils se réapproprient le temps parce qu'ils utilisent un temps qui est différencié entre temps de compétition et temps de match. Donc de la même façon, là on restructure un temps qui n'avait plus de sens. Il se réapproprie le temps avec des disciplines dites d'hiver, des disciplines dites d'été. Autre élément, c'est que dans ce temps réapproprié, eh bien, il réinjecte des émotions de frustration, des émotions de joie, des émotions de peur. Et ces émotions-là, elles sont immédiates, le sport le permet, mais elles sont aussi décalées. Les journaux le font revivre, comme le journal Auto le faisait à l'époque, mais les journaux le font revivre et revivre 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard. Donc on a une réappropriation du temps par les jeux sportifs qui est ici, à mon sens, très importante à considérer. Ce temps, il est aussi décalé vers l'avenir. Et les jeux sportifs le permettent, comme la citation que je vous ai choisie ici le met en exergue, et comme la photo, je pense, le fait aussi. Parce que les activités sportives, les jeux sportifs, permettent de porter attention à son corps et à sa santé chez des hommes qui ont extrêmement peur d'avoir perdu leur virilité, leur jeunesse, leur capital physique, dans 4 ans passés derrière les barbelés. Donc là, il y a une reconstruction du corps qui est en train de se faire pour l'avenir, c'est-à-dire qu'ils préparent leur corps à sortir des camps et à revenir comme ils étaient presque avant, sauf que ça fait évidemment 5 ans et que ça fait un petit peu long, eu égard aux privations qu'ils ont supportées. Les journaux, c'est très étonnant, ils vantent les performances, ils comparent les performances, ils montrent des corps de plus en plus performants, comme s'ils arrivaient à se retrouver physiquement à travers les performances qu'ils étaient en train de réaliser en athlétisme en tant que tel. Autre, et je terminerai là-dessus, autre, on va dire, lutte contre la vulnérabilité qui s'immisce à l'intérieur des activités physiques et sportives, c'est une lutte pour retrouver une certaine forme d'identité. Et pour commencer, la première identité qui va être retrouvée à travers les activités physiques et sportives, ce sont des cadres sociaux. Et ce que l'on voit apparaître en comparant en fait les annuaires de Stalag et les pratiques que les personnes sont en train de faire, c'est que le choix de leurs pratiques est corrélé à leurs habitudes de classe. Et on retrouvera les classes aisées davantage pratiquer des activités de type escrime et tennis, c'est-à-dire des activités où le contact n'est pas direct, mais où en fait l'affrontement est médié, soit par un fleuret ou l'affrontement est médié par une balle et une raquette, peu importe. Mais en tout cas, on met à distance l'adversaire et on joue en fait selon des codes d'honneur par rapport à un fair play et par rapport au fait de faire plus du beau jeu que de vouloir absolument gagner. Les classes plus populaires, les classes moyennes, sont plutôt en train de s'investir dans des activités de type boxe, de type rugby, de type football, et où là, ils cherchent le contact, ils cherchent l'affrontement, ils cherchent à gagner, et où le corps, en fait, et les capacités physiques du corps sont davantage mises en exergue. Quant aux valeurs, on est plutôt sur des valeurs d'esprit d'équipe, de sociabilité des vestiaires, qui est ici en train de s'exacerber. Toujours est-il que le sport permet la reconstruction d'un microcosme social culturellement signifiant, c'est ici ce qu'il faut noter, et donc une identité qui puisse se retrouver. Dernier élément, eh bien on est sur une espèce de réappropriation d'une identité, je dirais pas nationale, mais cette fois-ci de terroir local. Ce que l'on voit apparaître à l'intérieur des expériences que les captifs nous racontent, c'est qu'ils refont vivre leurs racines territoriales. À travers donc 2 exemples que je vous ai choisis ici, à travers les danses et les journées folkloriques, vous avez les Basques qui mettent en évidence et en exergue leur culture, comme les Bretons vont mettre en exergue leurs jeux traditionnels et leur culture. À travers des journées où on met en avant dans des danses, dans des jeux, mais aussi dans des costumes, tout ce que l'on est quand on n'était pas encore arrivé dans le camp. Et puis il y a des compétitions, comme on le voit ici en 1942, où les blocs se rencontrent, les blocs c'est les quartiers du camp, se rencontrent les uns contre les autres avec des équipes qui sont, dont les noms sont des noms de régions françaises. Donc là on voit que l'équipe Nord a été abattue, pardon, l'équipe Île-de-France-Paris. Donc là les équipes ont été constituées par des gens qui habitaient quand ils étaient en liberté dans les régions considérées. Donc là le sport sert à reconstruire cette identité locale dont il était ici question. Pour résumer en trois points, ce que j'ai voulu vous montrer, c'était que les institutions humanitaires avaient organisé les choses pour faire en sorte de lutter par le biais des distractions, notamment sportives, pour lutter contre la vulnérabilité captive, c'est-à-dire principalement la psychose des barbelés. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que les Allemands avaient travesti évidemment les faits en essayant d'utiliser cette obligation qui leur a été faite, à la fois pour contrôler et à la fois pour tenter d'endoctriner les captifs qu'ils avaient sous la main pendant 4 à 5 ans. Quant aux captifs en tant que tels, eh bien, eux, ils ont utilisé cet interstice de liberté dès que c'était possible pour essayer de reconstruire à la fois leur corps, à la fois leur identité sociale et à la fois leur identité culturelle. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le moment où il y a le plus de désaffection chez les sous-officiers réfractaires, pour ceux qui ont tenu déjà 2 ans, c'est qu'on perd en fait 10% de réfractaires quasiment tous les ans. Et que en 43-44, il semble que la captivité enfermée, avec des jeux impossibles, use plus en fait le réfractaire que ne l'usaient les exercices punitifs entre 40 et 42. Je vous remercie pour votre attention.